suis très heureuse de lui jaser parce qu'écoutez, c'est un ancien collègue de travail. C'est la première fois qu'on se reparle, je pense, en onde. Éric Arsenault, spécialiste en actualité internationale. Bonjour, Éric.
Bonjour, Catherine.
Bonjour, c'est un plaisir de te retrouver ce matin.
Ben, c'est un plaisir partagé. Ça faisait une paye, comme on dit.
Oui, une paye, absolument. Donc, Éric et moi, on a travaillé ensemble dans une autre vie, on va le dire comme ça. Éric, je veux qu'on parle de tout ça ce matin. À quel point ça a de l'impact, cette décision-là de Donald Trump? Est-ce que, d'une certaine façon, pour toute la scène internationale, c'est-tu un échec, le fait d'agir comme ça?
Ben, dans un certain sens, c'est que les Américains envoient un message au reste du monde, c'est que désormais, vous pouvez plus compter sur nous dans tout et pour tout. Et c'est très cohérent dans un certain sens avec le discours qu'on entend de Donald Trump depuis son élection et même avant son élection. Donald Trump répète à satiété depuis le début, c'est « America first ». On assiste depuis 3 ans, sous la présidence de M. Trump, à un retour à l'isolationnisme américain. Les Américains se replient sur eux-mêmes. Les Américains qu'on avait vus comme étant l'espèce de phare, de symbole, de référence, le port vers lequel tout le monde s'agrippait. Puis finalement, on se rend compte que les Américains ne veulent plus jouer, en tout cas sous Donald Trump, ne veulent plus jouer ce rôle-là. Alors quelque part, ça envoie le message effectivement que comptez plus sur nous. Nous autres, on fait nos affaires, on s'occupe de nos bebelles et excusez-moi de l'expression, mais arrangez-vous avec vos problèmes dans le reste du monde. Alors, il est clair que le message que ça envoie à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, c'est pas nécessairement bon pour justement tout ce qu'on appelle la coopération, la solidarité internationale.
Je regardais, Éric, les réactions et sur la scène internationale, entre autres en Allemagne. Il y en a, évidemment, qui vont à l'envers de cette décision américaine-là, c'est-à-dire de dire, au contraire, le travail de l'OMS, il est bien fait et on a justement besoin de plus de coopération internationale. Est-ce que c'est le discours qui est davantage prôné actuellement?
Oui, ben en fait, c'est ça l'affaire. Parce que, évidemment, les États-Unis qui se retirent de l'OMS, d'une part, ça va laisser un grand trou dans le budget de l'Organisation mondiale de la santé. Parce que les États-Unis contribuent annuellement pour à peu près 15% du budget de l'OMS. Alors, de deux choses l'une, soit ça va forcer l'OMS à réduire ses activités. Les Américains, notamment, finançaient, par exemple, des campagnes de vaccination contre des maladies, la poliomyélite, notamment. Alors, est-ce qu'on va devoir réduire la portée de ces campagnes-là, compte tenu qu'on a moins de fonds? L'autre conséquence, c'est que justement, ça met de la pression sur les autres États membres. Je dis États membres, mais il faut savoir qu'également qu'il y a beaucoup de donateurs privés au sein de l'Organisation mondiale de la santé, notamment la Fondation Bill et Melinda Gates, qui contribuent à chaque année pour des centaines de millions de dollars. Mais nécessairement, ça va mettre une pression sur les autres membres de l'Organisation mondiale de la santé pour combler le manque à gagner qui découle de la disparition des Américains dans le décor.
OK. Éric, est-ce que le Brésil fait partie, est membre de l'OMS?
Oui, le Brésil fait partie de l'Organisation mondiale de la santé, comme d'ailleurs tous les États dans le monde. Il y a 194 États membres au sein de l'Organisation mondiale de la santé, aussi bien dire que tout le monde est là. Mais ce que cette décision-là pourrait avoir également comme conséquence et comme effet, c'est d'inciter d'autres pays à se retirer eux aussi de l'Organisation mondiale de la santé. Parce que Catherine, il faut être honnête, il faut être franc, l'OMS n'est pas à l'abri de tout soupçon et de tout questionnement en lien avec sa gestion de la pandémie. Il y a beaucoup de critiques qui ont été émises, notamment par les Américains, mais il y en a d'autres également, qui nous disent que la façon dont l'OMS a géré les choses, qu'on a pris beaucoup trop de temps à réagir, certains disent qu'on est de plus en plus proche de la Chine, c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose. Alors, il y a des critiques qui sont pas dénuées de fondement à l'égard de la Chine, à l'égard de l'Organisation mondiale de la santé. Et dans le fond, ce que la décision américaine fait, c'est que ça pourrait inciter d'autres pays à suivre cet exemple-là. Et tu parlais du cas du Brésil. Bon, on sait que le Brésil est dirigé par un dirigeant d'extrême droite qui a Donald Trump en très haute estimation et en très haute admiration. Et lui aussi a menacé, dans une certaine forme de mimétisme là, par rapport à Donald Trump, mais a menacé lui aussi de retirer le Brésil de l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas fait. Loin de là. Il y a d'ailleurs une grande enquête qui va être lancée là, sur la façon dont l'OMS a géré cette pandémie-là.
OK, parce qu'en fait, c'était là où je voulais aller avec toi. Donc, c'est pour ça que je te posais la question, parce que M. Bolsonaro fait partie de ses dirigeants, tout comme Donald Trump. On les appelle les corona-sceptiques. Là. Bon, là, il a la COVID et là, il s'en sert aussi pour dire que finalement, il va bien, puis c'est à peu près juste comme une grippe. Alors, c'est pour ça que je voulais savoir comment lui se positionnait. Donc, lui aussi menace, sauf qu'on n'en est pas là encore. Ne se sont pas retirés de l'OMS pour l'instant.
Non, en effet. Et il ne faut jamais oublier, Catherine, que derrière ces décisions-là, celles des États-Unis, de Donald Trump, de se retirer de l'OMS, il y a évidemment une grande partie de théâtre aussi derrière ça. Parce que, évidemment, ouais, au-delà des critiques qu'on pourrait effectivement adresser à l'Organisation mondiale de la santé, dans le cas qui nous intéresse, Donald Trump se sert un peu de l'OMS comme bouc émissaire. C'est une façon pour lui, en faisant porter le chapeau à l'OMS, de cacher sa propre incurie. Une façon de détourner l'attention sur sa gestion un peu chaotique, pour pas dire complètement confuse, de la pandémie aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs conforme avec la personnalité de Donald Trump, qui cherche toujours à faire porter le blâme à quelqu'un d'autre. Et gardons en tête également qu'on est à 5 mois d'une élection présidentielle aux États-Unis. Toutes les décisions prises par Donald Trump, et en particulier à ce temps-ci, ont toujours comme objectif de rassurer sa base électorale et quelque part d'assurer sa réélection. Donc Donald Trump avait promis en arrivant au pouvoir qu'il allait mettre fin aux dépenses puis aux milliards et milliards que les États-Unis engageaient un peu partout dans le monde, qu'on allait s'occuper de nous autres. America first, là, on y revient. Ouais. Alors c'est une façon également pour Donald Trump de montrer à sa base, voyez, je remplis mes promesses, je remplis mes engagements, puis on va s'occuper de nous autres, etc. Alors, comme tout ce que fait Donald Trump, toutes ses décisions, que ce soit de politique intérieure ou de politique extérieure, il y a toujours un objectif derrière ça, c'est de réconforter sa base, solidifier sa base et éventuellement assurer sa réélection en novembre. Et je pense que derrière cette décision-là, il faut voir aussi qu'il y a un petit peu de théâtre, là.
Merci beaucoup, Éric. Merci d'avoir été là et de nous avoir expliqué ça ce matin.
Toujours un plaisir, Catherine. Bonne journée.
Merci. OK, bye-bye, à bientôt. Éric Arsenault, spécialiste en actualité internationale, donc il revient sur le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé.